Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau CQFR, un CQFR explosif comme le dunk d'Anthony Edwards la nuit dernière. Shai, on a assisté peut-être au poster de l'année. Je pense qu'on peut oser commencer à parler de poster de l'année. Ça sera peut-être pas le cas, peut-être qu'il y aura un dunk encore plus dingue, mais en tout cas, certainement, il sera dans la discussion. C'est celui d'Anthony Edwards sur John Collins. Victoire des Wolves, je les appelais les Wizards, on venait de parler de Bilal Koulibaly juste avant. Les Wolves ont battu le Jazz 114-104. Mais vraiment, s'il y a bien une chose à retenir, c'est ce dunk d'Anthony Edwards. Énorme dunk. Il s'est déboîté le doigt en dunkant. Ouais. John Collins s'est blessé à la tête en recevant le dunk. C'était vraiment une action assez folle. Chai.
Interdit au moins de 18 ans, l'action. Ouais. Interdite. c'est énorme dunk pour le pauvre Collins. Non seulement il est sur le poster, et effectivement, il s'est blessé à la tête. Anthony Edwards, alors il a pas fait que ce dunk, parce que son match est bon. C'est lui qui est responsable de la victoire des Wolves, qui était privé déjà de Rudy Gobert et de Karl-Anthony Towns, ça on le savait, qui en plus ont perdu Naz Reid en cours de route. Il a pas joué de la deuxième mi-temps. Edwards a haussé le ton en deuxième mi-temps et finit avec 32 points. Et il s'offre en plus donc ce que tu décrivais à juste titre, je pense, comme le poster de peut-être de la saison, l'année est encore longue, l'année 2024, mais de la saison. Et c'est assez magnifique. Il y a eu un autre dunk cette nuit, mais qui pour le coup, j'ai eu du mal à dans le CQFR écrit ce matin, vu que celui de Jalen Johnson sur Austin Reaves, c'est ça, c'est Austin Reaves. J'ai vu les gens dire, oh, c'est lequel des deux est le plus fou et tout ça. C'est magnifique visuellement, les photos sont belles, mais sur celui de Jalen Johnson, j'ai l'impression qu'il y a une faute offensive, même si j'aime pas trop me hasarder, me risquer à des analyses d'arbitrage, mais j'ai plus l'impression de voir une faute offensive que sur l'énorme dunk d'Anthony Edwards.
Ouais, j'ai pas particulièrement un avis sur la faute offensive. Je dirais que celui d'Edwards m'a plus marqué. Après, en fait, il y a un facteur un peu injuste envers Jalen Johnson, c'est qu'en plus Anthony Edwards c'est une superstar, donc forcément il a tout un personnage autour. Même la manière dont il réagit à son dunk après, quand enfin on lui montre après le match, le dunk et tout, où il explique qu'il a grandi en tant que fan de Vince Carter, qu'il a toujours rêvé de claquer un dunk comme ça. Tout le contexte autour, bon, fait que celui d'Edward prendra plus de place dans les médias, je pense. Là, en tout cas, ce matin et certainement au moment de faire la review de l'année. Et puis, Ouais.
C'est même pas le plus beau qu'il ait mis, parce que c'était l'année dernière ou il y a deux ans sur Watanabe, là. Je le trouvais encore plus fou athlétiquement et visuellement. Mais bon, après, c'est
de toute façon, Edwards, athlétiquement parlant, c'est exceptionnel. Je comprends pourquoi il est. Alors, j'ai évidemment pas vécu le jeune Michael Jordan, mais j'aime beaucoup le jeune Michael Jordan. Regardez ses highlights. Il y a quelque chose qui se dégage quand il a encore des cheveux et tout. Il y a vraiment un truc, tu vois. Et c'est vrai que Edwards, sur certains aspects, tu es obligé de penser, en tout cas sur l'aspect athlétique et aérien, ça rappelle le jeune Michael Jordan. Je ne parle pas du niveau de jeu, je ne parle pas du niveau d'accomplissement, je parle purement du niveau athlétique et de l'impression visuelle qui se dégage. Tu sens qu'il plane. Et juste là, en quelques temps, on a eu son contre les Pacers, qui est peut-être le contre de l'année, ouais. Son dunk sur John Collins, qui est peut-être le dunk de l'année. Athlétiquement, c'est exceptionnel, quoi.
Je vais faire le vieux con. La comparaison me paraît justifiée sur le côté athlétique est assez fou, comme pas que pour Jordan la comparaison, hein, tu peux sur tous les plus beaux spécimens athlétiques. Mais alors, juste sur entre les deux, la fluidité de Jordan, tu vois, il était un peu plus fin. Edwards quand même, oui. C'est un beau aussi.
Edwards est plus bouquet, puissant, quoi. Du coup.
Voilà, plus puissant. Et du coup, c'est moins gracieux, mais
c'est moins félin. Ouais.
Voilà, moins félin. C'est pour ça que il l'appelait le Black Cat.
Il est quand même. Il est quand même comparé à un chat, Edwards, tu vois, par exemple, hier, je crois que c'est Mike Conley qui dit, ouais, c'est un chat.
Ouais, parce qu'il est bondissant, enfin, tous ses appuis sont très bondissants, il y a puissance, ça rebondit, non, mais il est vraiment impressionnant, et t'as raison, c'est le fait que ce soit une star ou une superstar en devenir, il a aussi besoin de ces actions-là pour marquer les esprits et pour que les gens se disent, ah ouais, lui quand même, c'est vraiment le gars, c'est vraiment la superstar qu'on attend, et il fait pas ça dans des matchs anodins, parce que les Wolves ont besoin de gagner des matchs s'ils veulent décrocher la première place. Là, ils reviennent à peu près à hauteur de Casey qui n'a pas joué. Mais tu vois, il prend les responsabilités au-delà du dunk. C'est lui qui fait basculer le match en leur faveur. C'est lui qui met les 32 points. Cette saison, il y a vraiment cette croissance. Il a grandi en tant que leader, que joueur important de l'équipe. et Minnesota a besoin de ça. On se posait des questions sur lui, sur la maturité, le côté. On aime tous son côté très spontané. Il nous fait marrer, même si de temps en temps il sort un peu des clous, c'est un peu limite. Mais il a vraiment grandi cette année et il a 22 ans. C'est ça.
Hein, je sais pas son âge. Je vais te dire
il
ça.
À peu près.
Tu me mets dans le piège. Il a 22 ans, c'est ça. 22 ouais, voilà. ans, mais il va avoir ses 23 en mai.
Bon, c'est quand même extrêmement jeune. C'est extrêmement jeune et il est déjà. Il va encore progresser sur plusieurs aspects physiques, techniques, mentaux. On est sur quelque chose de très très fort avec Anthony Edwards et son équipe est déjà compétitive alors que c'est sa troisième ou quatrième saison. C'est très prometteur. Honnêtement, je vais réserver sur son cas, pas sur le talent, mais sur la bascule entre joueur très fort, très prometteur, star, superstar. Il me semble encore capable de passer des échelons et c'est super pour les Wolves parce qu'on n'a pas l'habitude pour eux que dans la durée, ils aient un prospect aussi intéressant. Carl Anthony Towns a énormément de talent, mais on a senti quelques limites dans d'autres registres pour lui aussi. Les Wolves ont un vrai leader, une vraie superstar actuelle et en devenir.
Ouais, clairement. Non, son début de carrière est très excitant et ça donne envie de voir ce qui va se passer par la suite avec Anthony Edwards. Surtout qu'il y a encore un peu ce flou, donc c'est ce qui rend ça encore plus excitant. On peut enchaîner avec la victoire des Knicks contre les Warriors, victoire à l'extérieur de New York 119-112, malgré l'absence d'Oji Anunoby, ouais. Nouvelle blessure au coude, ça va être très 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 gênant pour New York, ouais. Ça risque de mettre à mal les ambitions new-yorkaises, mais victoire à Golden State, 34 points de Jalen Brunson, triple-double pour Josh Hart, c'est le cinquième au cours des 20 et quelques derniers matchs, 10 points, 11 rebonds, 11 passes. Et 29 points de Miles McBride, qui a joué 47 minutes. On a eu du grand Thibodeau, hein. 48 minutes pour Bouchard, 47 minutes pour Miles McBride. Lui, il a pris la place d'Anunobi. Il est rentré, il a signé son record en carrière, 6 paniers à 3 points. Et en plus, il a bien défendu sur Stephen Curry. Bref, une très belle soirée pour McBride et une victoire des Knicks, la quatrième de suite.
Putain, mais les Warriors à domicile, ils me dépriment. Enfin, normalement, ça devrait être le genre de forteresse un peu... Ah, je dis pas imprenable, toutes les équipes perdent des matchs à domicile, mais... Tu te rends compte, ils ont perdu 18 matchs sur 35 à la maison cette année. C'est énorme pour une équipe qui est censée...
Ils ont un bilan négatif, voilà.
J'aurais pas du tout parié dessus. Je me serais plutôt même dit qu'ils auraient du mal à l'extérieur, mais qu'à domicile, avec l'atmosphère et tout. Enfin, mais ils sont catastrophiques à la maison. Et c'est même inquiétant pour les playoffs finalement, parce que... je dis ça parce que là ils sont pas partis pour avoir l'avantage du terrain à un moment vu qu'ils sont dixième et que là en plus les Lakers sont gagnés dans le même temps mais
t'as besoin de gagner les matchs chez toi,
il faut gagner chez soi, mais bon, les Knicks quatrième victoire de suite, il faut le souligner, c'est bien, même sans Anunoby, même toujours sans Randle, et Thibodeau qui met 48 minutes à à Josh Hart, c'est Thibodesque, voilà. Et McBride, ça fait plaisir parce que sur son tout début de carrière, il était hyper intéressant, un peu électron libre, un peu foufou en sortie de banc, et il a été quasiment choisi au détriment de joueurs comme Evan Fournier, hein, parce que c'est à peu près le même poste, et il le rend bien, Thibodeau, parce que quand il entre, il fait le job, là, sur des matchs comme ça, record en carrière.
Allez, on peut continuer avec la victoire, par exemple, des Lakers. On a parlé déjà un peu du dunk de Jalen Johnson, mais bon, c'était le lot de consolation pour les Hawks qui ont pris une pilule. Victoire de Los Angeles 136-105 avec un gros trio. 27 points, 10 passes pour D'Angelo Russell. 25 points, 7 rebonds, 10 passes pour LeBron James. 22 points, 15 rebonds, 6 passes, 2 interceptions pour Anthony Davis. Et pour Russell, il y a eu 6 paniers à 3 points, donc il a atteint le total de 183 paniers à 3 points depuis le début de la saison. C'est un record égalé pour les Lakers. Est-ce que tu sais qui avait le...
Bien sûr, mon gars Nick
Van Exel.
Nick the Quick. Nick the Quick, Van Exel, qui était un de mes joueurs préférés.
Et donc, Russell devrait battre ce record. A priori, il lui reste une dizaine de matchs pour aller chercher ce record. Je pense que ça devrait aller. Belle victoire des Lakers.
Il faut tirer le chapeau à D'Angelo Russell, depuis que la deadline est passée, et même un peu avant, il a quand même fait le job pour se rendre indispensable, je ne sais pas, mais plus utile que ce qu'il était avant que les rumeurs commencent à fleurir autour de son cas. On savait que c'était le joueur qui potentiellement pouvait être échangé, et il fait vraiment bien le job. Je le trouve bien ces dernières semaines, voire ces derniers mois. Avec un joueur de son talent, il fait vraiment une bonne saison.
Est-ce qu'il a une contract option, il a une option lui sur sa prochaine saison, non?
C'est une bonne question.
Je vais regarder en même temps, mais ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait une petite option et qu'il y ait une petite envie d'aller chercher un contrat bien intéressant, un peu plus intéressant que celui qu'il a signé cet été. Je vérifie, pardon, direct. Oui, il a bel et bien une option. Il a une player option. Elle a 18 millions de dollars. Je pense qu'il va l'activer et aller gentiment se chercher un contrat un peu plus long, un peu plus onéreux. Pour les Browns, juste rien à voir. Mais vous avez, de toute façon, toi, je sais que tu avais passé ça. Théo nous l'a envoyé aussi, notamment hier. Mais il sort un podcast avec JJ Redick où ça va vraiment parler basket, basket, basket. Là, ça s'adressait aux puristes, ou ceux qui veulent vraiment s'intéresser à la stratégie, au schéma défensif.
T'as vu les premiers extraits ?
Ouais, en tout cas, c'est dans ce sens-là que vont les premiers extraits. Ça s'annonce assez dingue.
Les deux, ils ont un papier ready qu'il est en train de dessiner ce que lui dit LeBron. Moi, en tant que non tacticien, ouais, alors j'ai les verres de vin, ça m'a parlé. Par contre, j'ai rien capté de ce que racontait LeBron, donc c'est passé que c'est bien, c'est que ça va m'intéresser sur la le langage.
C'est vrai qu'en plus, ils ont les termes, tu sais, vraiment anglais. Il y en a certains qu'on connaîtrait peut-être en français, qu'on connaît pas en anglais. Enfin, bref,
mais je suis curieux.
Ça s'annonce passionnant, je pense.
Là, avec le QI basket des deux, là, je suis curieux de voir. Je pense qu'il y aura, ça va calmer les trolls sur, sur Twitter et compagnie. J'ai hâte de voir des mecs venir leur dire « Ah non, je ne suis pas d'accord. »
Et c'est la première fois que vraiment, on pourra avoir une vraie étendue de ce que pensent les Browns du jeu, tu vois. C'est-à-dire qu'il est capable de le faire parfois sur des interviews. Mais là, vraiment, un podcast dédié à ça, ça se sent un peu que c'est la fin de carrière, du coup, quelque part, fait de faire ça maintenant. Mais je pense que ça va vraiment être passionnant.
C'est très bien que ce soit avec Redick parce que il est intéressant aussi là-dessus. Et ça va dans. Quand Redick avait reçu Adam Silver. Quand il avait reçu Adam Silver, ils avaient parlé du fait que Silver et que la NBA voulaient des programmes plus tactiques comme ça, vraiment strictement basket. Et bon, là, ils ne peuvent pas trouver meilleur casting pour ça. LeBron est connu pour sa mémoire photographique, sa maîtrise du jeu. Donc, oui, ça. Franchement, ça va être très intéressant. J'ai peur d'être un peu perdu. J'espère qu'il y aura du lexique et à côté, il y aura de quoi expliquer, mais ça va être top.
Allez, on peut continuer avec la victoire des Sixers, par exemple. Victoire des Sixers contre le Heat, 98-91. Victoire importante parce que justement, c'est la course au play-in. À l'Est, c'est la course à la sixième place aussi au play-off. Et Philly est repassé sixième. Ouais. Tu vois, Philadelphie a réussi à reprendre pour l'instant cette sixième place. En gagnant contre Miami avec un gros Tyrese Maxey, il a sorti un match important. Alors, il a manqué d'adresse par moment, mais 30 points, 8 rebonds, 10 passes, 22 points, 11 rebonds de Kelly Oubre et 16 points de Kyle Lowry qui a joué un mauvais tour à son ancienne équipe. Et victoire très importante de Philly qui a très bien défendu. Nicolas Batum a joué 38 minutes, mais que 2 points, mais très précieux. 8 rebonds, j'ai plus exactement, je crois, c'est 2 interceptions, 1 contre.
C'est ça.
Et voilà. Et un match très précieux de la part de Nicolas Batum. Faut pas se fier au nombre de points inscrits là pour le coup. Et belle victoire de Philly.
Kyle Lowry qui s'est jeté par-dessus la table de marque pour aller jouer des ballons. Il avait une motivation supplémentaire, je pense, contre le Heat. Et 38 ans, mais il a toujours un peu le feu en lui. Ça pourra servir au moment des playoffs. Je sais que beaucoup le pensent complètement cuit et cramé, mais ça peut quand même servir. Là, ce sera pas facile pour Philadelphie tant que Embiid n'est pas là. Mais j'ai bien aimé le match de Kyle Lowry.
Allez, autre match, c'est la victoire des Kings contre les Grizzlies, 121-111. On a assisté au coup de chaud de la soirée. C'est toujours le même homme.
C'est toujours le même.
Un certain Malik Monk, mais c'est vraiment le hit-check guy de la ligue, lui. Alors, il a mis 28 points en 39 minutes. Bon, il sort du. C'est le sixième homme de l'année. Il n'y a même pas.
Ouais, c'est bon. Donnez-lui.
Ouais, 28 points, 6 rebonds, 6 passes. Il joue 39 minutes. Les Kings ont gagné en prolongation. Mais ce qui est fou, c'est qu'en fait, il a mis 12 de ses 28 points en prolongation. Et il a surtout mis 12 des 16 points des Kings en prolongation. Il a mis le double des points des Grizzlies en prolongation. Bref, Malik Monk, dès que ça commence à chauffer, il faut lui passer la balle. Quoi.
Très fort Monk. T'as raison, sixième homme de l'année. Super joueur offensif en playoff, ça va être une arme aussi pour eux, parce qu'il y a des équipes, on en parlait hier dans le podcast, il y a des équipes où on ne sait pas vraiment quel est le mec en sortie de banc qui peut mettre un peu de dynamite. Les Kings ont ce joueur-là avec Malik Monk. C'est un match aussi où Domantas Sabonis a continué sa série de double-double.
50 de suite.
Voilà, 50 de suite, 25 points, 18 rebonds, 5 passes, et il n'est plus qu'à 3 double-double de suite du record, en tout cas de l'ère moderne, de Kevin Love, qui a 53.
Ouais, d'égaler le record de Kevin Love. Autre match, c'est la victoire de Boston, sans forcer contre Detroit, 119-94. Alors, il n'y avait pas de Jason Tatum cette nuit. Il y a toujours un mec qui manque. Hein. Il n'y avait pas de Tatum, il n'y avait pas d'Holiday. On a eu le premier triple-double en carrière de Derrick White, 22 points, 10 rebonds, 10 passes. On a eu 31 points de Jalen Brown. On a eu 20 points de Kristaps Porzingis qui était de retour, 23 points de Peyton Pritchard. Et voilà, Boston, 54 victoires en 68 matchs.
T'as tout, mais il est pas sympa avec moi. Hier, j'ai écrit un petit article pour dire qu'il est... Alors, en réaction à ses déclarations où il disait qu'il voulait absolument lutter contre le load management, même quand il avait un petit bobo, il serrait les dents pour pouvoir jouer à l'extérieur parce qu'il y avait des mecs qui avaient son maillot et qui se devaient de faire ça. Et bah, bon, là, il est forcément un peu... Il a un petit souci à la cheville, donc il n'a pas joué, mais c'est... Le timing n'était pas à mon avantage. Parce que j'ai dit, ah, c'est la star la plus fiable de la Ligue. Voilà.
Ouais, merci Jason. Il n'a pas manqué beaucoup de matchs.
Non, d'ailleurs, c'était l'enseignement du truc. C'est que depuis qu'il a été drafté, c'est le joueur en NBA qui a joué le plus de matchs. Il est deuxième au nombre de minutes au total derrière DeMar DeRozan depuis sa draft.
Cleveland a battu Indiana, victoire 108-103. Alors, les Pacers, justement, qui sortent du top 6, on a parlé de la victoire de Philadelphie. Les Cavaliers, eux, continuent à se rapprocher, en tout cas à rester dans la course pour la deuxième place à l'Est, malgré plusieurs absents. Donc, victoire 108-103, comme je le disais. 23 points de Jarrett Allen, 23 points de Caris LeVert. Il n'y avait pas de Donovan Mitchell, il n'y avait pas d'Evan Mobley, il n'y avait pas de Max Truss. Mais Cleveland continue de trouver des ressources. Et il y a quand même 14 points de Marcus Morris. Je ne savais même pas qu'il existait encore. Mais ouais. Il est bel et bien là, il a joué son premier match avec les Cavs et 14 points.
Ils l'ont signé récemment, il a eu un bel impact. Hein, cette équipe de Cleveland, je le dis à chaque fois, mais c'est assez dingue comment elle arrive à s'accrocher malgré les absents, surtout le nom des absents. Hein. Depuis le début de la saison, il faudra regarder le nombre de fois où l'effectif a été au complet. Et là, malgré ça, ils arrivent quand même à rester dans la course à la deuxième place. Je maintiens que Milwaukee finira très probablement deuxième, mais c'est assez épatant et admirable de la part des Cavs.
On l'a déjà souligné, alors Tyrese Haliburton, il a fini avec 14 points et 12 passes. C'est quand même plus tout à fait le même joueur depuis sa blessure aux ischio. Lui, c'est un joueur qui va avoir vraiment besoin de repos cet été. Il voulait peut-être jouer les JO, on verra. Là, il continue à jouer, évidemment, parce que les Pacers ont quand même la place pour aller en play-off, mais clairement, on sent que c'est plus le même homme, quoi.
Ouais, il y a eu la blessure qui a été un souci. Et plus, on l'avait déjà dit, l'arrivée de Siakam, c'est une adaptation. Alors Siakam, c'est un joueur, c'est pas un joueur avec un énorme ego qui demande énormément le ballon ou quoi que ce soit, mais ça joue aussi, je pense, là-dessus. Et je pense quand même qu'il est dans la liste théoriquement. On a déjà la liste, hein,
Tim. Oui, il est dedans. Il fait partie des mecs qui ont joué la Coupe du Monde, avec Edwards et Banquero. Je crois que Banquero et je sais plus.
Si alors Banquero n'est pas, pour l'instant, il est pas dans ce qu'on sait, dans ce qu'on a, ce qui a l'air de se dessiner. Il est pas dedans. Au contraire d'Anthony Edwards et de Tyrese Haliburton. Mais je suis d'accord. C'est pas tout à fait le même. Et d'un côté, il avait fait une première partie de saison tellement énorme jusqu'au in-season tournament où il avait fait aussi des gros matchs que bon, la blessure est pas anodine. Et il y a aussi l'histoire des 65 matchs à atteindre si vous voulez être éligible à des All-NBA First Team, à différentes choses. Et bon, là, c'est clairement, il tire la langue. J'espère qu'Indiana tiendra le coup. Et ils sont encore dans la course, évidemment. Et dans tous les cas, un play-in serait une progression par rapport à la saison précédente. Mais ils ont été souvent dans la bonne zone et ce serait un peu dommage qu'ils craquent sur la fin.
Allez, dernier match de la soirée, c'était la victoire de Chicago contre Portland, 110-107. Je vais donner plusieurs stats. Je vais évidemment donner celle de Domination. Déjà pour Chicago, donc 28 points et 6 passes pour DeRozan. Il donne la passe décisive d'ailleurs pour Vucevic qui met 22 points, dont le panier pour la gagne, on va dire, à 9 secondes du buzzer. Il y a 23 points et 10 passes d'Ayo Dosunmu qui, lui, est vraiment en train de monter en puissance à l'absence de Coby White. Les Bulls, j'aime bien leur équipe, hein, mine de rien. Ça n'a pas trop de sens. C'est un peu particulier, mais il y a quand même beaucoup de joueurs qui jouent bien au basket. Et donc, Dosunmu, lui, il est en train de s'illustrer. Et du côté des Blazers, qui ont donc perdu de peu, 14 points pour le rookie Scoot Anderson, qui a shooté à 4 sur 17, 30 points, 9 passes pour Simons, et 25 points, 15 rebonds, 2 contre pour notre gars Domination, qui continue sa série. Ça y est, il est parti pour rouler sur la ligue. Il a tout capté, là.
Est-ce que tu as vu sa déclaration après le match
ou avant le match? Dis-moi ce qu'il a dit.
Alors, c'est pas du tout contre lui, même si ça m'a totalement... J'ai absolument pas compris... Il essaie d'expliquer ses difficultés du début de saison et il a révélé qu'il dormait sur un matelas gonflable chez lui. Il dit qu'il arrivait pas, que selon lui, son corps n'était pas en suffisamment bon état en début de saison pour l'adaptation à sa nouvelle vie et tout ça. Et dans sa baraque, il dort sur un matelas gonflable. J'ai pas compris. C'est-à-dire que lui, c'est pas facile de tu changes d'environnement.
Oui, c'est pas. Mais la franchise pourrait s'occuper. Enfin, normalement,
normalement, t'as des assistants. Ce genre de trucs, t'as des mecs. Son agent, je sais pas. Enfin, ça m'a surpris. Déjà, moi, quand je quand je vais dormir chez des potes sur un matelas gonflable, j'ai un peu mal au dos le lendemain matin. Alors, là, un mec qui fait 2m10, je trouve ça assez fou. Alors, les gens se moquaient un peu sur Twitter, je voyais, mais ça m'a plus surpris que... je trouve ça assez fou. Mais bon, ça n'empêche pas de faire des très bonnes performances en ce moment et d'être le joueur que les Blazers pensaient avoir récupéré au moment du trade.
Il y avait aussi la question de savoir combien de temps il dort, parce que... C'est un gros gamer sur Call of Duty. Donc à voir, mais oui, c'est... Bon, nous, ça peut nous sembler dingue parce qu'on peut se dire, bah mec, tu vas à Ikea, t'achètes un lit, t'achètes un matelas, tu le montes et puis voilà. Mais normalement, dans les franchises, il y a des assistants GM. Leur boulot, grosso modo, c'est de gérer ça. C'est pas de gérer des trades ou des signatures ou tu passes d'abord par la gestion quotidienne de tes joueurs. Hein. Un manager d'une équipe. D'une équipe au boulot dans n'importe quelle entreprise, c'est que tu te retrouves à gérer telle chambre d'hôtel, faut lui réserver là, faut lui acheter ça, le chauffeur, etc. Et ouais, c'est étonnant que les Blazers aient pas pris un peu plus en main un mec qu'ils ont fait venir.
Mais tu sais quoi, ça me fait penser, ça me rappelle l'histoire avec Michael Beasley et Kwame Brown. Je sais plus lequel des deux, parce que c'est un journaliste qui disait à quel point ça avait été difficile pour eux le début de carrière parce qu'ils étaient pas matures, pas préparés à la vie de joueur NBA. Et genre, il y en a un, il savait pas comment laver son linge, donc il avait jamais de linge, tu vois.
Début des années 2000, c'était terrible, hein. Il s'occupait, tous les mecs qui sont arrivés directement du lycée, les Eddie Curry, Kwame Brown, comme tu dis, les Tyson Chandler.
Ils vivaient dans c'était des déchetteries, quoi. Ils vivaient dans des conditions à base de commandes de pizza, ils faisaient pas son linge, c'était. Donc là, il en est pas là, évidemment, Eton, hein, mais je repense aussi à la situation où il était resté bloqué chez lui pendant la neige.
Là, pour le coup, ils avaient envoyé des gens pour essayer. Ouais.
Je suis en train de me dire, en fait, juste, il était saoulé, il voulait rester dormir parce qu'il avait mal. Il s'était fait une nuit de gaming et il avait dormi sur son matelas gonflable. Il a juste voulu profiter un peu, tu vois. Je sais pas, mais j'ai trouvé l'information assez étonnante pour un joueur NBA, surtout de ce calibre-là en 2024.
Je suis d'accord, je suis assez d'accord, c'est assez étrange. D'ailleurs, rien à voir, mais en parlant des Pistons, Evan Fournier a pris $25,000 d'amende parce qu'il a. De pied dans la balle après la défaite frustrante des Pistons contre le Heat. C'était avant-hier. Fournier avait bien joué. Miami avait fini par l'emporter au buzzer. Donc voilà, ça a fait $25,000 d'amende. Shai, on va se laisser là-dessus. Le podcast est toujours disponible, le podcast d'hier. On a parlé longuement des Mavericks. On a parlé de Luka Doncic, de Kyrie Irving. Donc voilà, ça peut vous intéresser. N'oubliez pas que vous pouvez encore nous envoyer vos questions à cqfr.rivers@gmail.com.
Et on en parlera sans doute peut-être plus ce soir du coup, mais petite information, c'est la fin de saison de Bilal Koulibaly aussi.
Mais tu as tout à fait raison.
Ça peut se développer plus tard. Hein,
on peut revenir dessus. Ouais, tu as tout à fait raison. J'ai complètement zappé. Je te laisse la main. Vas-y.
Non, pas de souci. Mais donc Bilal s'était blessé contre Chicago au poignet. Ils ont diagnostiqué une fracture au niveau du poignet droit et donc sa saison est malheureusement terminée. Alors c'est presque bien pour les Wizards s'ils veulent être le plus bas possible. Bilal étant un des joueurs qui leur faisait gagner le plus de matchs, je pense, en tout cas qui était les plus compétitifs. Donc ça pose des questions pour les Jeux Olympiques, forcément, parce qu'on sait qu'il est dans le pool de joueurs qui intéresse Vincent Collet pour rejoindre l'effectif. Je pense qu'on est à quoi ? On est à 4 mois des JO, c'est au mois de juillet. A priori, ça ne remet pas en question sa participation, mais sa fin de saison est terminée on va suivre le développement de sa convalescence pour voir s'il est apte à jouer les JO. Et puis ça permet de dire qu'il a quand même fait une super saison rookie. Les stats ne disent pas tout, hein. Il y a genre 8 points, 4 rebonds, quelque chose comme ça, c'est pas
ce qui est déjà pas mal du tout.
Tout à fait raisonnable.
Pour un joueur arrivé avec l'étiquette de joueur défensif, c'est déjà pas mal du tout.
Et donc c'est pas mal du tout. Et cette étiquette de joueur défensif, je pense que on a tous pu voir, malgré le marasme dans lequel il évolue à Washington, on a vu des séquences assez folles et ses coachs respectifs, là, notamment l'actuel Kiff. Il n'y a que des choses positives à dire sur lui. Tous les observateurs ont remarqué que c'était un joueur avec un énorme potentiel défensif. Et je pense qu'il faut saluer ça. Et c'est dommage qu'on ne puisse pas le voir sur les derniers matchs de la saison, parce qu'il est titulaire. Il en était à 16 titularisations, là. Rendez-vous l'année prochaine pour Bilal en NBA.
Yes, tout à fait. Bon, on espère en tout cas qu'il sera rétabli pour les JO. Mais comme tu l'as dit, on a quand même de l'espoir, a priori, sur une fracture du poignet. On va se laisser là-dessus. On se retrouve donc ce soir sur Twitch à 23h pour les Lakers.
Je vous referai deviner quelques petits joueurs, surtout, surtout le temps qu'Antoine arrive de l'entraînement. Hop, petite devinette et après, voilà.
Impec. Bah écoute, on se donne rendez-vous ce soir. Allez, bonne journée à tous.
Bonne journée, ciao.
Ciao, ciao.